J'aime bien Farid, mais parfois il c'est n'importe quoi. Bon. Merci beaucoup. Nous, on a une Clio 3 grise. Ouais, avec une clé, c'est bon. Bah, comme d'habitude, pour nous, c'est un grand plaisir d'être là. On s'est rendu compte ce matin avec Jill dans la voiture, pas cette voiture, qu'on visite cette église depuis 18 ans, de temps en temps. Et voilà. Mais pourquoi? Parce qu'on vous aime. Vous êtes une super église. J'aime beaucoup le fait que vous êtes des générations différentes, des couleurs différentes, des langues différentes. Vous êtes une église locale au nom de Jésus et on vous aime. Juste pour vous dire que la dernière fois, on était à Lyon, comme William qui était là dimanche dernier, mais peut-être il vous a dit que nous, Jill et moi, on a déménagé. Maintenant, on est sur la région parisienne avec l'église Fireplace. Et depuis Paris, c'est possible d'atteindre tous les coins du pays plus facilement que depuis Lyon, bien sûr. Et c'est vraiment une joie de faire partie d'une église locale Fireplace et d'une famille d'églises Newground en France et en francophonie. David est là depuis un autre pays. On était ensemble à Genève dimanche dernier. Donc c'est un grand plaisir. Donc merci pour votre accueil. Comme disait Farid, il y a énormément de choses à faire ce matin. Donc j'ai un message à vous donner qui n'a rien à voir avec le fait qu'on va prier pour un nouvel ancien ici, mais c'est quelque chose que j'ai à cœur. Donc je vais le faire assez rapidement pour pouvoir passer le micro aux autres et puis on va prier pour Andrew tout à l'heure. Je vais lire un texte très connu qui se trouve dans Actes chapitre 1. Ça va normalement s'afficher. Super, merci beaucoup. Et puis, j'ai trois points, parce que je suis très traditionnel, à faire dessus. Et puis, voilà, je vais laisser le message avec vous. Mais cela dit, il va y avoir un peu un challenge. Et donc, même si je n'ai pas le temps, je n'aurai pas le temps de prier pour certains qui aimeraient répondre à ce message pendant le culte, ça se fera à l'apéritif. Parce que ce que je vais dire, c'est franchement important aussi. OK, le texte. Alors qu'il était avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais être très trinitaire. Je vais parler de l'Esprit, du Père et du Fils. Et on commence par l'Esprit. Donc on va regarder le passage et on est d'abord en versets 4 et 5. Je vais vous parler pendant un instant de ce que la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit. L'Ancien Testament contient presque 8000 promesses de Dieu. C'est énorme. En moyenne, ça veut dire une promesse tous les trois versets. Et pourtant, il y en a une qui doit être si importante que Luc l'appelle la promesse du Père. Luc 24, par exemple, Jésus dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Acte 1, verset 4, dans notre passage. Attendre ce que le Père avait promis. Et finalement, acte 2, 39, à la fin de la prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte. La promesse est pour vous. La promesse pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et les disciples connaissaient très très bien le baptême d'eau. Une immersion totale dans l'eau. Vous avez votre piscine ici. Et je parlais tout à l'heure avec François qui s'est fait baptiser récemment. Super, alléluia. Les disciples connaissaient le baptême d'eau. Jean-Baptiste l'avait fait. Eux-mêmes l'avaient fait, les disciples. Jean chapitre 4. Ils connaissaient également la prophétie de Jean-Baptiste concernant baptême. Matthieu 3, verset 11. Jean dit, moi, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Même mot, baptême. Alors, quand Jésus leur explique qu'eux, ils seront baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours, ils savent que ce sera une immersion totale, cette fois dans l'Esprit. Et comme vous savez, si vous connaissez vos Bibles, le jour de la Pentecôte arrive. Acte chapitre 2. Et l'Esprit tombe sur 120 disciples. L'Église est née, la mission de Jésus est lancée à travers le monde dans la puissance du Saint-Esprit. Et nous, on fait partie d'une famille d'Église qui s'appelle Nouvelle Frontière. Notre petite partie, c'est New Ground. Cette famille est fondée, entre autres, fondée sur la théologie et l'expérience du baptême du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit qui viennent avec. Beaucoup maintenant, des décennies plus tard, beaucoup de personnes dans nos églises maintenant, je ne pense pas qu'ils mettent le même accent dessus. Sur la promesse du Père, le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup peut-être dans nos églises, peut-être ici, peut-être chez nous à Paris et notre ancienne église à Lyon, qui diraient, je crois avoir été baptisé du Saint-Esprit, c'était il y a 20 ans ou 4 ans. Mais tout en sachant qu'il ne montre pas trop d'évidence aujourd'hui. Peut-être quelqu'un dit, j'ai parlé en langue, mais c'était franchement il y a 12 ans et plus maintenant. J'ai prophétisé, oui je pense, je crois, mais c'était plus récemment en fait. D'autres apprécient énormément que le culte de notre Église soit vraiment ouvert au don du Saint-Esprit. Oui, et en même temps, ils n'utilisent pas trop personnellement les dons du Saint-Esprit, les dons de la grâce, charismata. Fier que l'Église soit considérée charismatique, mais si on fait une étude des Églises du Nouveau Testament, commençons par Jérusalem et en allant à Antioche, Éphèse, Corinthe, etc., etc., on va voir que ces églises-là étaient beaucoup plus charismatiques que nous. Et ça fait quelque chose en moi. Ça me donne envie, ça me donne une soif et une faim de nouveau pour le Saint-Esprit. Et il y a d'autres qui ne sont pas même convaincus que les dons du Saint-Esprit soient pour aujourd'hui. Et encore d'autres, peut-être dans nos églises, qui diraient que la nouvelle naissance dont parlait Jésus, Jean chapitre 3, est la même chose que le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on pense? Donc, pendant quelques instants ce matin, j'aimerais en parler. Le livre des Actes des Apôtres nous présente cinq récits, cinq histoires où les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Et à mon avis, en regardant ces passages, chaque fois, on voit que l'Esprit tombe sur des personnes déjà croyantes. Que ce soit 3 ans pour les disciples, que ce soit 3 secondes, etc. Acte 2, 120 disciples à Jérusalem, convertis, on dirait, depuis 3 ans, l'Esprit tombe sur eux. Acte 8, plusieurs personnes en Samarie, converties, déjà baptisées d'eau, donc converties depuis combien de temps, on ne sait pas, mais mettons 3 semaines. Pierre et Jean arrivent, ils imposent les mains, etc. Acte 9, maintenant on a Paul, Saul à l'époque, converti, on dirait, depuis 3 jours. Et maintenant, Ananias prie pour lui. L'Esprit tombe sur lui. Acte 10, une famille romaine entière à Césarée, baptisée de l'Esprit tout de suite après la conversion. Il croit et l'Esprit tombe. Donc, croyons depuis 3 secondes. Mettons 3 secondes. Et acte 19, le dernier récit, 12 disciples cette fois, à Éphèse. Probablement pas encore né de nouveau parce que Paul, il doit expliquer l'évangile. Et puis il les baptise d'eau et puis il prie pour eux et l'Esprit tombe sur eux. Convertis depuis combien de temps? On ne sait pas. Mettons 3 minutes. Sauf si la prédication de Paul durait des heures. Voilà, 3 heures. Ça dépend. Et puis nous avons le ministère de Jésus décrit par Jean-Baptiste, son cousin, en 2 parties. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Le ministère de Jésus, sauver le monde par son sacrifice à la croix. Mais Jean dit quelque chose d'autre sur le ministère de Jésus. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc pour moi, Jean-Baptiste, il décrit 2 choses qui marqueront le ministère de Jésus. Sa mort et la venue du Saint-Esprit. Nous, avec joie, on dit que Jésus est le Sauveur. Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. Mais rarement ou jamais on ne dit que Jésus est le Baptiste. Mais si, il est le Baptiste. Et il veut baptiser dans l'Esprit. Même si on prie pour vous pendant l'apéritif cet après-midi, il veut vraiment nous remplir. Donc, en regardant ce passage, on a ça, le baptême du Saint-Esprit, et puis nous avons quelque chose sur le Père, la souveraineté du Père, versets 6 et 7. Nous avons les disciples, Pierre, Jacques, Jean et les autres, ils connaissent l'Ancien Testament. L'Ancien Testament montre le dessein de Dieu pour les nations du monde. Préféré à moi, c'est Ésaïe 49, verset 6, où il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'ai appelé pour être la lumière des nations, pluriel, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et peut-être vous connaissez aussi Habacuc, le prophète, chapitre 2, verset 14. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Dieu veut les nations. Et ses disciples, ils ont passé 3 ans avec Jésus, ils ont écouté les prédications, ils ont vu son amour pour les nations, pas seulement les Juifs. Et Jésus a dit, après avoir entendu l'officier romain, c'est dans Matthieu 8, Jésus, il fut dans l'admiration. Et il dit, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus était là pour les Juifs et pour les nations du monde. Les disciples ont été les témoins oculaires de la résurrection. Ils ont reçu personnellement le mandat missionnaire. Allez, faites des nations les disciples. Et pourtant, quand Jésus leur parle du baptême du Saint-Esprit dans peu de jours, leur question immédiate concerne Israël. Alors, est-ce en ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et si on regarde la réponse de Jésus, on peut imaginer un peu ce qui se passe, ce qui passe par sa tête. Et Calvin, Jean Calvin, il a dit, il a écrit, il y a, je cite, il y a autant d'erreurs dans cette question que de mots. Et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël. Les disciples ne comprennent toujours pas. Mais avec tout ce temps passé avec Jésus, ils rêvent toujours pour du pouvoir politique, même militaire peut-être, surtout la délivrance du joug de Rome. Ils rêvent toujours, même après 3 ans avec Jésus. Ils rêvent de la gloire nationale, ce qui avait été en fait gagné brièvement par Maccabée 150 ans auparavant. Et Jésus, il les corrige. Verset 7. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il est souverain. Et si je paraphrase un tout petit peu ce qui est permissible de temps en temps, je pense que Jésus, il les regarde et il les dit, écoutez les gars, Israël, laissez mon Père s'en occuper. Il sait ce qu'il fait. Ne vous inquiétez pas. Pouvoir, puissance, ah bah oui, vous le recevrez. Mais cette puissance ne sera pas pour votre chère nation Israël. Ce sera pour vous quand l'Esprit vient par le baptême du Saint-Esprit. Gloire? Ah bah oui. Mais cette gloire ne sera pour votre chère nation Israël. Ce sera pour moi. Et vous en serez les témoins. Et on finit par la mission de Jésus, ce qui se trouve en verset 8. Donc, Esprit, Père, Fils, vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus ne dit pas, il faut noter, il ne dit pas, et le Saint-Esprit viendra sur vous, et j'espère que vous serez mes témoins. Il ne dit pas non plus, le Saint-Esprit viendra sur vous, et certains d'entre vous seraient mes témoins. Ah ben non. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez une puissance. vous serez mes témoins. Et on peut échanger le mot « vous » en mettant « nous ». Nous serons ses témoins. Et partout. Et comment Jésus pouvait-il être si certain que ses disciples allaient jusqu'au bout de la terre? Comment pouvait-il être si certain que ça se fasse? C'est simple. Parce qu'il allait envoyer la puissance du Saint-Esprit sur eux. Et il connaissait le Saint-Esprit. Et il savait que l'Esprit voulait et l'Esprit veut toujours les nations pour Christ. Le ministère du Saint-Esprit, je veux les nations pour Jésus. Parce que l'Esprit a une passion brûlante, dévorante, si vous voulez, c'est d'exalter Jésus dans le monde entier. L'Esprit, Jésus dit, révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'Esprit s'occupe de la gloire de Jésus. Et Dieu, dans sa sagesse, c'est extraordinaire. Il appelle l'Église. Même une Église à Marguerite. Ce qui n'est pas un bled, ce qui est connu. Mais même une Église à Marguerite à porter cette grâce et cette gloire dans les nations du monde. Commençons là où vous êtes, mais en allant beaucoup plus loin. C'est sa sagesse. Il faut que cet évangile, dit Jésus, soit proclamé à toutes les nations. Et nous savons, parce que nous lisons la Bible, nous savons que les nations, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples seront représentés aux cieux avec lui. On va entourer Jésus, l'agneau de Dieu, toutes les nations. Mais l'Esprit, il a beau vouloir le monde pour Christ, le but n'est pas encore atteint. Il y a du travail devant nous. Et apparemment, selon les missiologues, une nation est atteinte par ou de l'Évangile si il y a au moins 2% de sa population chrétienne. Et la France? Je ne pense pas. L'Église évangélique a beau grandi depuis des années. Alléluia. Merci Seigneur. Continue ton œuvre. Béni soit le nom de Dieu. Mais ça ne représente que 1%, même pas, de sa population. Et c'est pareil dans la plupart des autres pays en Europe et dans le monde. Il y a plein de nations et ethnies où le pourcentage est très faible. L'Esprit veut les nations pour Jésus-Christ. Jésus nous appelle. Je suis calviniste en théologie. Je ne suis pas donc d'accord avec Jacobus Arminius parce que son enseignement donne trop de place, trop de rôle pour l'homme dans le miracle de la conversion. Ça revient à Dieu seul. Pourtant, un des dangers du calvinisme, c'est ce qu'il peut conduire certains à être paresseux dans cet appel, mandat que nous avons. Parce que Dieu va sauver de toute façon. On peut rester ici, dans notre chère bergerie. Mais les actes des apôtres enseignent clairement que le Saint-Esprit, il veut atteindre les extrémités de la terre pour Jésus, par nous, ses disciples. Et si vous êtes chrétien, c'est un privilège énorme de faire partie de ce plan éternel de Dieu en Jésus-Christ. Tant que les disciples ne porteront pas le message de Christ crucifié et ressuscité dans le monde, les peuples resteront spirituellement dans les ténèbres. Et certes, il y a de belles histoires des gens, surtout actuellement des musulmans, qui font des rêves de Jésus et du coup, ils se convertissent. Wow! Encore plus, Seigneur. Mais il est rare qu'une personne ne se convertisse à Christ sans qu'il y ait un témoignage de quelqu'un. Acte 8, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Acte 10, l'Esprit dit à Pierre, lève-toi, descends et pars avec eux. L'Esprit dit à l'église de Marguerite, avance et approche-toi de ce char, entre guillemets, que ce soit votre voisin, votre collègue de travail, le village d'à côté. Approche-toi. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. En fait, on va un peu mettre à part quelqu'un ce matin dans la prière. Parce qu'il y a quelque chose à faire ici. Et Dieu nous appelle de nouveau à être partenaires avec lui. Ok, stop. Stop.
Merci beaucoup, Georges. Je crois que ton message s'inscrit très bien dans la prière pour la nomination d'un ancien. Waouh, les extrémités de la terre. Est-ce que vous savez où est-ce que Paul voulait aller ?